On va ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 21. Vous avez lu, j'espère, le petit message que j'ai envoyé. J'espère que vous avez eu le temps de regarder un peu. C'était la lecture de ce matin, enfin de ce matin, d'aujourd'hui, quoi, qu'on a envoyé les lectures du mois de cette semaine, qu'on appelle en général la semaine sainte. On l'appelle comme ça, hein. Est-ce que les évangiles relatent tous cette semaine sainte? Oui, les quatre évangiles. D'accord? Je sais pas si vous le savez, mais les quatre évangiles relatent tous la dernière semaine. Je sais que dimanche vous avez parlé de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et cette semaine commence avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, puis jusqu'à sa crucifixion. Les quatre évangiles relatent cela, mais en fait, la dernière semaine occupe une grande partie dans les quatre évangiles. Alors, par exemple, le ministère de Jésus, il a duré combien de temps? Son ministère public? 3 ans. 3 ans pendant ces 33 ans. Et les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont tous accordé une importance à cette dernière semaine. Alors, l'évangile de Matthieu commence à quel chapitre avec l'entrée de Jésus à Jérusalem? 21. Chapitre 21, verset 1. Si vous avez lu quelques versets avant, c'est chapitre 21. Sur combien de chapitres dans Matthieu? 28. D'accord? 21, 22, 23, 24, 25... 26, 27, 28. Allez, on va dire que ça fait 7. Ok. Combien de fois 7 fait 28? Ah, on est à l'école, là. 4 fois 7. Donc, ça fait combien? Quel pourcentage de l'évangile qui est accordé à la dernière semaine? 25%. Un quart. Un quart. C'est beaucoup, hein? Matthieu accorde un quart. Marc, le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem commence à Marc chapitre 11. Hein? Ça serait bien que vous ayez ces repères-là. Marc chapitre 11 jusqu'au chapitre 16. D'accord? Marc, c'est 16 chapitres. Allez, on va dire 5 chapitres au total. Ça fait quasiment, quel pourcentage? Un tiers. Un tiers, hein. C'est bien, Philippe. Et tu vois, même mes élèves, ils ont du mal à faire ça, hein, au lycée. l'évangile de Luc, c'est à peu près 20%. Ça commence au chapitre 19, en gros. Et l'évangile de Jean, est-ce que vous savez où est-ce que ça commence? Est-ce que l'entrée de Jésus à Jérusalem est donnée? Dans quel chapitre? Chapitre 12. Sur combien de chapitres? 21. Ça fait combien de pourcents? Quasiment 50% quand même. Ça fait quasiment 50%. C'est énorme, hein? Donc vous voyez que cette dernière semaine de Jésus, tous les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en parlent, mais dans des grandes proportions. Ça veut dire que ça a une place parce que c'est là où il y a la crucifixion de Christ, mais il y a tout ce qu'il a fait dans cette semaine, ils y ont tous accordé une grande importance. Et quelqu'un a dit que l'ensemble des évangiles compte 89 chapitres, mais 29 chapitres et demi d'entre eux, exactement un tiers, relatent ce qui s'est passé entre l'entrée de triomphale de Jésus à Jérusalem et puis sa résurrection. Donc, quand on est dans cette semaine, c'est bien de relire toutes ces choses que le Seigneur a faites, parce que l'Écriture en parle en insistant beaucoup. Donc, Jésus, après son entrée à Jérusalem, son entrée triomphale, il est entré dans le temple. Matthieu 21, à partir du verset Matthieu 21, 12, je crois, hein, on voit qu'il rentre dans le temple, et il fait ce qu'on appelle la purification du temple. Il va chasser tous les vendeurs et les acheteurs, tous ceux qui avaient établi un certain commerce dans le temple. Ensuite, il fait des allées et venues. Il part, il va à Béthanie, il revient. Donc là, on retrouve qu'il revient dans le temple. Et ça, c'est plutôt, il rentre à Jérusalem, hein, d'accord, quoi, au chapitre 21, verset 12, il entre dans le temple, et puis on voit au verset 23 du chapitre 21 encore que Jésus se rend encore au temple. Donc entre les deux, il part, il revient dans le temple. Et il discute pas mal avec les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs. Ils ont des échanges assez vifs hein, dans cette dans tout ce temps-là. Et Jésus propose pas mal de paraboles aussi hein, dans ce temps où il s'entretient avec eux. Et c'est une de ces paraboles qu'on veut regarder aujourd'hui. Hein. Donc il faut penser que le Seigneur dit ça quelques jours avant sa crucifixion, hein, et donc il va parler, enseigner encore des choses et parler à ses interlocuteurs, particulièrement aux scribes et puis aux pharisiens, aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple. Et il donne une parabole, donc chapitre 21, versets 23 à 27. Chapitre 21, versets 28 à 32, c'est ce qu'on veut voir. Hein. Une parabole qu'on appelle la parabole des deux fils, un petit peu. Et cette parabole, elle est entourée de deux questions. La première question qu'il pose, c'est que vous ensemble. Et puis la deuxième question qu'il leur pose, c'est lequel des deux fils a fait la volonté du père. Et entre les deux, il leur raconte une histoire. Alors il faut se rendre compte. Vous avez lu au chapitre 23. Tout à l'heure, bien, Jésus est dans le temple et puis il y a une discussion avec les Juifs qui lui demandent par quelle autorité il fait ces choses, tout ce qu'il a fait. Hein, il avait chassé les vendeurs du temple. Il lui demande mais par quelle autorité il fait ces choses. Jésus répond Je vous adresserai aussi une question. Si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et puis il dit le baptême de Jean. Était-il des hommes ou venait-il du ciel. Alors ils raisonnent en eux-mêmes et puis ils disent si on dit que ça vient du ciel, il va dire pourquoi n'avez-vous pas cru. Et puis si on dit que ça vient des hommes, bon on va se faire lyncher par le peuple parce que le peuple tenait Jean-Baptiste pour un prophète. Et ils trouvent une échappade, ils disent bon on ne sait pas. Et Jésus lui dit moi non plus. Jésus lui dit pas moi non plus je ne sais pas. Hein. Il dit moi non plus je ne vous dirai pas. Autrement dit il dit vous n'avez pas voulu me dire, mais moi non plus je ne vais pas vous dire. Par quelle autorité je fais ces choses. Et puis, Jésus continue sur la lancée et il dit, que vous ensemble? Il dit, voilà, on va réfléchir un peu. Je vous pose une question. Que vous ensemble? Et il raconte cette histoire. On va la lire, chapitre 28, verset... Chapitre 23... 21, verset 28. Il dit, un homme avait deux fils... Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ? Ils répondirent le premier. Alors, est-ce qu'ils ont bien répondu? Oui ou non? Oui, c'est une réponse qui est très facile hein, à donner. Hein. N'importe quel enfant peut donner cette réponse hein, que donne ici. Lequel a fait la volonté du Père? Ben oui, le premier. Et puis Jésus continue et il dit, on est au verset 31, au milieu du verset 31. Il dit, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Au passage, on peut voir, c'est quoi la question ici, en fait, qui est posée à Jésus? Parce que d'abord, c'est une question qui est posée à Jésus. C'est par quelle autorité fais-tu ces choses? Et vous voyez la réponse de Jésus? Hein, il arrive et il parle tout à fait autre chose. Donc, il ne se laisse pas forcément embarquer dans une question, dans une discussion, comme nous avons peut-être tendance à le faire, hein. On nous pose une question et on estime qu'il faut argumenter, il faut répondre à cette question-là, il faut vraiment, parce que quelqu'un peut, mais il va là où il faut aller. Il dit, vous voulez pas me dire, mais lui, il dit ce qu'il a à dire, et en fait, là, il se sert de la question pour enseigner ce qu'il veut leur enseigner. Alors, on pourrait dire que cette parabole, ici, on peut la séparer en trois parties, hein. Donc, la parabole proprement dite, peut-être versets 28 à 30, ici, et puis la question de Jésus, que Jésus pose, hein, verset 31a, avec la réponse, et puis la conclusion que Jésus fait, en gros. On pourrait séparer cela comme ça. Donc, on va regarder rapidement la parabole qu'on vient de lire, la parabole de Jésus. De quoi est-ce que Jésus parle ici? Il parle d'un homme, d'un père qui a deux fils et qui demande aux deux d'aller travailler dans sa vigne. D'accord? Donc, quand on lit, bon, on a lu l'ensemble du texte, on peut dire à qui se rapportent ces différentes personnes, personnages de l'histoire de Jésus, de la parabole. Alors, si on prend le père, on pourrait dire, il est l'image ici de Dieu, hein. Si on prend le premier fils, celui qui a dit non et qui a dit oui après, qui est allé après, à votre avis, c'est, j'ai pas entendu. Pécheurs qui se repentent. Donc ici, les publicains, si on regarde en bas, au verset 32, hein, les publicains et les prostituées. Et puis, le second fils qui dit « j'irai mais qui n'y va pas », c'est les religieux, etc. Et puis la vigne, ça peut être le champ de Dieu, le champ, la mission de Dieu. Certains disent peut-être l'Église. On peut représenter l'Église de Dieu aussi, hein, parce que c'est l'œuvre que Dieu. L'apôtre Paul disait que l'Église c'est le champ de Dieu, n'est-ce pas? L'Église c'est la maison de Dieu aussi. Donc on peut voir un petit peu des parallèles dans ces choses-là. Et puis on voit bien que c'est une parabole dans laquelle Jésus s'adresse vraiment aux sacrificateurs et aux anciens, parce que quand vous avez lu à la fin au verset 45. Du chapitre 21, il dit, après avoir entendu, il parle des principaux sacrificateurs, après avoir entendu ces paraboles, donc plusieurs, celles qu'on vient de lire, pas toutes, ok, ils disent, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils ont compris ça, ils ont saisi ça. Donc, ce que Jésus fait, c'est qu'il parle d'eux. Donc, quand on lit ces paraboles, on doit se dire, il est en train de dire quelque chose à tous, mais en particulier aussi aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Jésus surprend par l'histoire qu'il raconte parce qu'il parle d'un premier fils qui est un méchant récalcitrant rebelle, hein, on pourrait dire ça, hein, un peu. Son père lui dit, va travailler dans le champ. Il dit, non, j'y vais pas. J'ai pas envie d'y aller. Et il exprime ouvertement sa rébellion. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, mais il fait quoi d'abord? Il se repent, et puis il y va. Et puis, il y en a un autre, second fils, auquel le père dit la même chose, et il dit, j'y vais, Seigneur, je veux bien, Seigneur. C'est le garçon tout gentil, toujours en train de dire oui à maman et à papa, il est obéissant, il est prêt, d'accord? Mais dans le fond, ça n'est qu'une obéissance de façade, de surface, hein. Il n'y va pas. Il dit oui et il n'y va pas. Et Jésus pose la question, bien sûr, lequel fait la volonté du Père? Eh bien, évidemment, celui qui se repent et puis qui va dans le champ, qui va travailler. Et donc, Jésus montre ici que ces pharisiens, ces scribes, ces souverains sacrificateurs, avaient l'image de personnes qui disent des choses, mais qui ne le font pas. Il avait, Matthieu chapitre 23, je vous lis, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il dit, faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, ils sont caractérisés par des gens qui disent, je vais faire, j'y vais, Seigneur. Mais dans le fond, ils ne le font pas. Donc, c'est un petit peu l'image que Jésus donne d'eux ici. Et il souligne que ce qui est important, c'est quoi ici? Ce qui est important, c'est quoi? C'est pas de dire, je vais faire, Mais c'est quoi? C'est de faire la volonté du Père. Il montre, et par la question qu'il pose, quelle est la chose importante à retenir ici? Lequel a fait la volonté de son Père? Il n'a pas dit, lequel est gentil, lequel est méchant, le garçon. Il dit, lequel a fait la volonté de son Père? Et donc, il souligne par là que ce qui est important ici, c'est quand Dieu parle, c'est de faire, de se soumettre à sa volonté. C'est ça qui est la chose importante qu'il enseigne ici à ses scribes. Et on voit dans l'Écriture que le fait de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté du Père, est quelque chose de crucial, de capital. Le service véritable, la foi véritable, le salut véritable, consiste à faire la volonté du Père. 1 Jean 2, 17 dit, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Donc on voit ici, et on pourrait lire plusieurs passages, hein, qui parlent de cette insistance sur le fait de faire la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce qui compte pour Jésus? Ce qui compte, ce n'est pas la bonne disposition initiale. Il y a un fils qui dit, j'y vais. Et puis finalement, il n'y va pas. Donc initialement, il est plein de la disposition d'y aller. Mais au final, il ne va pas. Et Jésus montre que ce qui compte, c'est pas le fait d'être disposé initialement, d'avoir de la sincérité pour y aller, mais c'est l'obéissance finale. C'est l'obéissance finale. Celui qui a fait la volonté du Père, c'est le premier. Initialement, il a dit non, mais finalement, il s'est repenti et puis il a obéi. Et c'est pour ça que Jésus dit à d'autres endroits, par exemple Matthieu 7, 21, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ceux qui me disent avec la bouche « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais qui c'est qui rentre, il dit ? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est exactement la même chose. Il dit, c'est pas le fait de dire, de chanter, de prêcher, de jouer de la musique, de distribuer, d'être présent qui est quelque chose. Il dit pas qu'il faut pas le faire. Il dit pas qu'il faut pas l'appeler Seigneur. Mais il dit, si je compte sur ça, comme les pharisiens le faisaient, vous rappelez-vous de la prière des pharisiens, je fais ceci, je fais cela, je jeûne. Et il disait des choses qui étaient vraies. Des choses qu'il faisait, et sérieusement. Mais il comptait là-dessus comme ce qu'il pourrait présenter à Dieu pour être, que Dieu lui soit favorable. Eh bien, Dieu dit non. Le Seigneur Jésus dit non. Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, car quiconque, Matthieu 12, 50, fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, comment il dit que la relation véritable avec Dieu consiste à faire sa volonté. Pas simplement à faire des choses, mais à faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Ça, c'est, je crois, ce que Jésus souligne fortement ici. Il avait, rappelez-vous, reproché aux vendeurs du temple de profaner la maison de son Père. Et ici, il reproche aux pharisiens de ne pas faire la volonté de son Père. Donc, la volonté, servir Dieu, c'est chercher à faire véritablement sa volonté. Donc ça, c'est ce que Jésus dit, en gros, on pourrait dire, dans cette parabole. Mais il tire une conclusion, hein, sur ce qu'il vient. Il s'arrête pas juste là, il tire une conclusion. Et il va faire une connexion entre la question qui lui était posée, la question que lui-même a posée par rapport à Jean-Baptiste, et ce qu'il vient d'expliquer ce qu'il vient de dire dans cette parabole concernant la volonté de Dieu. Regardez au verset 31, il dit, donc, lequel a fait la volonté du Père? Ils répondent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Donc, la conclusion de Jésus commence avec un électrochoc. On pourrait dire, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors, il veut pas dire que les prostituées vont entrer, et puis vous allez rentrer après. C'est pas ça qu'il dit, hein. Mais il dit, il y a une disposition à quelque chose. Ils sont plus proches que vous, hein. Là-dedans. Ils sont comme le premier fils, là, qui a dit non, qui était loin de Dieu. Il a pas voulu faire la volonté de Dieu, et puis qui se repent, finalement, et qui fait la volonté du Père. Et pourquoi c'est choquant, ça? Pourquoi est-ce que c'est choquant, ce que Jésus dit ici? Je vous pose la question. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est choquant pour les anciens du peuple, les pharisiens, les scribes? Parce qu'eux ne se voient pas comme pécheurs, d'accord? Oui. C'est... Oui, à eux de donner l'exemple. C'est une mauvaise réputation, voilà. En fait, qui étaient les pharisiens, les scribes et tout ça, aux yeux du peuple? C'était les hommes moralement les plus élevés. Hein? C'est pour ça que Jésus dit, quand il dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous pouvez pas être sauvés. Et ils observaient avec scrupule la loi. Jésus dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans la loi, profondément dans la loi, ils connaissent par cœur les choses. Ils font tous leurs efforts pour suivre scrupuleusement la loi. Il dit, le pharisien dans sa prière, il dit, je jeûne, je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela. Il n'est pas en train de mentir quand il dit ça. Donc ils ont une morale qui est extrêmement élevée. Et puis de l'autre côté, de l'échiquier, on pourrait dire, il y a les prostituées, comme disait quelqu'un, c'est le niveau zéro de la moralité. D'accord? Et les publicains. Donc il y a un écart considérable entre les pratiques des uns et puis les pratiques des autres. Et pour le peuple, si quelqu'un doit être admis dans le royaume de Dieu, c'est qui? Ceux qui connaissent Dieu, qui sont les gardiens du temple. D'ailleurs, où est-ce qu'on les trouve? Dans le temple. Ils discutent avec... Ils sont pas dans la rue avec Jésus. Ils sont dans le temple, hein. Dans le lieu même où on adore Dieu, hein. Et imaginez, Jésus vient et puis il leur dit, ceux que vous considérez comme des chiens, des moins que rien spirituels. C'est ce qu'il dit. Il dit, ceux-là, ils vont vous précéder dans le royaume de Dieu. C'est choquant. C'est choquant. Imaginez, vous êtes là, vous faites tous vos efforts pour servir le Seigneur, vous travaillez, vous regardez pas les mauvaises choses, voilà. Et puis, Jésus vous dit, mais vous savez, les gens qui sont, voilà, qui, pire pécheurs là, ils seront avant vous dans le royaume des cieux. C'est quand même quelque chose qui frappe. Je trouve que c'est un électrochoc que Jésus leur fait ici. Et, ça doit être troublant pour eux. Ça doit être troublant pour eux. Mais il le fait. Il le fait parce que il veut les amener. Sa question, c'est, qu'en pensez-vous? Hein? Qu'en pensez-vous? Réfléchissez un petit peu. Qu'en pensez-vous? Et il veut les amener à réfléchir à leur propre situation. Donc d'abord, il leur fait cet électrochoc. Et puis, ensuite, je crois qu'il lance un appel. Hein? Si vous regardez le verset 32, il dit « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous avez vu cela et vous vous êtes pas repenti pour croire en lui. » Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il appelle à quoi ici? À la repentance. Il y a la foi. Vous voyez combien de fois il dit, il est question de croire. D'accord? Croire en qui? Directement? En Jean? Voilà. En la parole, hein? En Jean, etc. Et les pharisiens et les scribes, ils étaient conscients de ça parce qu'ils disent quoi? On a lu tout à l'heure, hein? Ils disent quoi? Ils disent, si nous disons que le baptême de Jean était du ciel, il nous dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Ok, ils ont compris. Ils savent bien qu'ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste, dans son message. Et Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste consistait à tourner la pensée, c'était le message de repentance, hein, vers le Christ. Donc ils savent bien qu'ils ont rejeté Jean-Baptiste, qu'ils ont rejeté Christ. Et ils sont conscients de cela. Donc Jésus lance ici quelque part un appel à la repentance. Parce que c'est la repentance qui est la chose importante ici. Quand il raconte cette histoire, c'est pas pour dire, quand il fait cet électrochoc, c'est pas, quand il dit les prostituées ou les publicains vont vous précéder dans le royaume des cieux, ils vont pas y entrer parce qu'ils sont des prostituées et des publicains. C'est pas ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire, ils vont y aller parce que eux, ils sont crus. Eux, ils se sont repentis. C'est ça qu'il veut dire. Eux, alors qu'ils étaient loin, sans loi, sans rien du tout, ils ont entendu le message, ils se sont repentis et ils ont cru. Et donc, ils vont être avant vous, dans vous qui rejetez Christ, dans le royaume des cieux. Donc ici, c'est une manière de leur parler pour qu'ils se tournent, pour qu'ils se repentent. Et donc Jésus souligne vraiment ici l'importance de la repentance. Le fils premier ici, il est dit qu'il a, le premier fils, il a fait quoi? Il s'est, verset 29, il s'est repenti, il a changé de pensée, il est revenu sur ce qu'il son attitude de cœur. Il a probablement prié, demandé pardon et puis il est allé, il s'est repenti et il a obéi au commandement de son père. Et ça rappelle l'histoire de deux autres fils, n'est-ce pas? Un petit peu, hein, le fils prodigue, hein, qui lui part loin et puis il perd sa vie avec des prostituées, mais in fine, il se repent et il revient à la maison du Père, ici. Et donc, Jésus dit, les publicains et les pharisiens qui, dans un premier temps, ont rejeté Dieu, eh bien, ils se sont repentis maintenant et ils vont vous devancer dans le royaume de cieux. Mais ceux qui sont les gardiens du temple, eh bien, ceux-là, qui rejettent Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas avoir de véritables relations avec Dieu parce qu'ils rejettent Jésus-Christ. Leur cœur est si dur, semble dire Jésus, que même quand ils ont vu les publicains et les prostituées croire en Jean, il dit, vous n'avez pas cru. Tu vois ce qu'il dit Jésus? Vous regardez au verset 32, il dit, vous avez vu. Il dit, les publicains, les prostituées ont cru en lui, en Jean, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Il semble dire que le fait que ces gens se sont tournés vers, qui avaient une vie tellement dissolue, se sont tournés pour croire dans le message de Jean, pour accepter le baptême de repentance, se tourner vers Christ, ça aurait dû vous faire réfléchir et vous aurait dû amener chez vous la repentance. Mais ils avaient le cœur tellement dur que même ça n'a pas aidé à les faire se tourner vers Christ. Et donc Jésus interpelle comme cela les Juifs qui l'affrontent dans le temple et il leur dit que vous avez un problème. Et votre problème, c'est celui de la repentance, de la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme petite application pour nous dans ce petit texte? D'abord, je voudrais dire ici qu'il faut pas, il ne faut pas faire de trop rapides conclusions, hein, sur certaines choses. On pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait dire, il vaut mieux s'engager, ne pas s'engager, quand on lit ce texte, hein, ne pas s'engager pour ensuite ne pas aller jusqu'au bout. Vaut mieux pas prendre d'engagement au début, attendre, plutôt que d'en prendre, et puis de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que, finalement, le premier fils, il a fait quoi? Il a dit non, et puis il est allé, et puis le second fils, il a dit oui, et il n'est pas allé. Il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas m'engager trop, on regarde cette histoire, on voit que Jésus dit, voilà, qui c'est qui a obéi finalement? Le premier, qui avait dit au début non, qui s'était pas engagé. Donc parfois, il vaut mieux ne pas s'engager trop tôt, attendre pour que ça soit un vrai engagement plus tard. Mais c'est pas ce que Jésus enseigne ici. D'autres peuvent dire, il vaut mieux se décider tard et faire, c'est-à-dire dans le temps, hein, tard et faire bien plutôt que se décider très tôt et puis ensuite faire mal. Et puis d'autres disent encore, ce qui compte, c'est d'être sincère. Moi, au moins, je ne suis pas hypocrite. Le premier, il était sincère. Il a dit, je ne veux pas y aller. Au moins, il était vrai dans ce qu'il a dit. Le second, il a dit, je vais y aller, c'était de l'hypocrisie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est mieux? D'être sincère, de dire, je ne veux pas y aller, ou d'être hypocrite, et puis de dire, je veux y aller, alors que dans le fond, on ne veut pas y aller. Qu'est-ce qui est condamnable, à votre avis? Qu'est-ce qui est plus condamnable? De dire, je vais y aller, et de ne pas y aller, et puis de dire, je ne veux pas y aller, et puis c'est vrai. L'hypocrisie, elle sent le piège, hein, elle dit, elle flaire le piège, Charity. Les deux sont mauvais. D'accord? Ce que Dieu veut, quand il donne un ordre, c'est quoi? Qu'on obéisse. C'est tout. Et ce que Jésus veut ici, c'est que on obéisse. Ce que Jésus approuve, c'est l'obéissance. C'est pas le calcul, je suis sincère, je suis pas sincère, c'est l'obéissance que Jésus demande. Ce qu'il désapprouve, c'est la désobéissance. Est-ce que le premier fils, il a désobéi quand il a dit, je ne veux pas y aller? Oui, parce que son père lui dit, va travailler aujourd'hui à ma vigne, il dit, j'y vais pas. Il est rebelle, il désobéit. Est-ce que le Seigneur approuve cela? Non, il approuve pas cela. Donc, faut pas comprendre cette histoire pour dire, il vaut mieux être sincère, dire les choses, dire non, mais au moins, on a dit non. On est sincère, au moins, on n'a pas fait comme l'autre qui dit oui, et puis finalement, il n'y va pas. C'est pas du tout ce que Jésus enseigne ici. Il veut l'obéissance dès le début. Dès le début. Donc, celui qui n'a pas obéi dès le début, il est désobéissant. Okay. Donc, on peut pas dire, voilà, je vais prendre mon temps à l'église avant de décider. Je vais pas me convertir tout de suite. Je vais pas m'engager tout de suite. Je vais pas me faire baptiser tout de suite. Je vais attendre. Je vais. Parce qu'il vaut mieux faire les choses bien. Si on sait qu'on doit faire, on fait pas. On n'est pas obéissant. Il faut que l'on considère les choses ainsi. La volonté du Père demande une obéissance totale et immédiate. Toujours. Quand Dieu donne un commandement, il attend une obéissance totale et immédiate. Le Père dit dans cette histoire que Jésus raconte, « Mon enfant va travailler quand ?» Dans ma vigne. Vous avez vu le texte? Il dit quoi? Aujourd'hui. D'accord? Il dit pas « demain ». Il dit pas « va travailler après-demain ». Il dit pas « va travailler quand tu pourras ». Il dit pas « va travailler quand tu en auras envie, quand tu voudras ». Il dit « va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Donc le Père s'attend à ce que l'enfant aille travailler aujourd'hui dans sa vigne à lui, hein, ici. Et donc, ce que Dieu veut, c'est une obéissance, je le disais, dès le premier instant, une obéissance qui, bien sûr, continue tout le temps jusqu'à la fin. Et Dieu nous appelle toujours aujourd'hui. D'accord? Dieu ne dit pas, demain, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il dit pas, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire demain. Non? Exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est mieux d'attendre plus tard pour m'engager. Parce que qui sait si j'aurai le temps de m'engager? On peut pas dire je vais attendre plus tard pour répondre à l'appel de Dieu. Qui me dit que Dieu va m'appeler plus tard? Qui me dit que Dieu va intervenir plus tard. Je n'ai aucune garantie là-dessus. Je n'ai aucune garantie sur ma vie plus tard. Et donc, quand on obéit à Dieu, c'est toujours au présent, toujours aujourd'hui qu'on doit obéir à Dieu. Et quelqu'un a dit ceci, je vous cite, il dit, « Dieu qui est éternel met l'importance sur le travail qui doit être fait maintenant, alors que l'homme, nous qui sommes d'un jour, et qui sommes pas certains de voir demain, nous aimons procrastiner, nous aimons repousser à demain. C'est intéressant, il dit, Dieu, il a tout le temps, il est infini, un jour c'est comme 1000 ans, il dit, faites ça maintenant. Mais nous sommes tout petits comme ça, et nous dites, ah, je ferai ça demain, pas maintenant, j'aurai le temps, non, pas, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, on remet à demain tout ce qu'on pourrait faire, que Dieu nous commande de faire maintenant. Il dit, c'est assez aberrant comme situation. Alors la question que je pose, c'est qu'avons-nous repoussé jusque-là. À quel appel de Dieu avons-nous répondu « J'irai, Seigneur » et puis on n'est pas allé? Parfois, on entend un message, on se dit « Oui, il faut que je fasse ça, je vais le faire ça. » Et puis, on rentre à la maison, on ne le fait pas. Alors, c'est la question qui nous est posée ici ce soir. Si nous avons jusque-là repoussé l'appel de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Se repentir, comme le premier fils. Se repentir et puis obéir à Dieu. C'est la seule chose que Dieu, le Seigneur enseigne ici. Il dit aux Juifs qui l'écoutent, ce que vous avez à faire, c'est vous repentir et obéir à Dieu, faire sa volonté. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous entendons sa voix, nous n'avons pas à repousser ce qu'il nous commande de faire. Quand on sait que les choses sont claires, Dieu nous demande clairement de nous engager, clairement de nous détourner du mal, clairement de servir, clairement de témoigner. On peut pas dire non, je ferai plus tard, parce qu'on ne sait pas si on pourra le faire plus tard. Et on peut pas dire non plus oui, je ferai, sans le faire. On doit absolument le faire, et si on a repoussé, on se repent et on demande à Dieu la grâce de pouvoir le faire. Que les progrès de ceux qui sont venus à Christ plus tard que nous, parfois, ou qui sont venus à Christ de plus loin que nous parce qu'ils n'ont pas grandi dans un contexte chrétien, comme ces publicains et ces prostituées, nous fassent réfléchir, parce que c'est ce que Jésus semble dire ici. Hein. Il dit, vous avez vu ça et vous n'avez pas réfléchi, ça vous a pas tourné vers la repentance. Que ceux-là qui viennent à Christ plus tard que nous, qui viennent à Christ de plus loin que nous, on pourrait dire, hein, nous fassent réfléchir aussi. Sur notre propre marche avec le Seigneur et que ça puisse nous encourager à aller davantage vers le Seigneur. Ce que je voulais dire en terminant, c'est que Jésus dit cela, hein, il ne prononce pas une condamnation définitive sur ces hommes, mais il même s'il leur donne un électrochoc, il leur donne le chemin à suivre, l'espoir. Et à chaque fois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous dit, repentez-vous. Donc ce message est un message d'espoir. Dieu dit, tant qu'il y a de la vie, on peut se repentir de notre manière peut-être pharisienne de vivre. Peut-être nous croyons parce que nous venons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Eh bien, nous sommes dans la volonté de Dieu. Il dit non, il faut réfléchir vraiment et faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Obéir pleinement à la parole de Dieu pour être dans la volonté de Dieu. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et nous te demandons que tu nous aides à la comprendre aussi et à la mettre en pratique. Merci pour l'exemple de ces deux hommes et nous pouvons nous retrouver parfois dans l'un ou dans l'autre. Mais tu nous interpelles par ta parole pour que nous puissions nous repentir et que nous ne nous reposions pas sur ce que nous faisons en croyant que parce que nous faisons une chose ou une autre ou parce que voilà, nous pratiquons une chose ou une autre, ou nous sommes engagés dans un ministère ou un autre, nous sommes en sécurité. Que nous cherchions dans notre vie, si nous marchons d'une manière conforme à la volonté du Père, à ta parole, et donne que nous nous détournions du mal dans la repentance, et que nous venions à toi, que nous croyons en toi. Merci encore pour ces paroles qui nous encouragent et qui nous réconfortent. Dans la gloire de ton nom. Amen.